Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Si quelqu'un se demande pourquoi on met autant l'accent en ce moment sur l'adoration, c'est parce que nous sommes en ce moment sur une thématique qui nous parle de l'adoration. Bien entendu, l'adoration, nous devons y être en permanence. Mais pendant la semaine, nous prions. Pendant la semaine, nous cherchons Dieu. Pendant la semaine, nous demandons à Dieu ce qu'il attend de nous. Pendant la semaine, nous demandons aussi à Dieu quels sont ses désirs, ce qu'il veut faire. 2013 est en train de s'achever. 2014 est en train d'arriver. Je dirais même que nous y sommes déjà. Mais Dieu ne fonctionne pas selon le calendrier des êtres humains. Les êtres humains fonctionnent du 1er janvier au 31 décembre. Ils fonctionnent en année. Dieu, lui, ne fonctionne pas en année. Dieu fonctionne en saison. C'est pour cela que quand une nouvelle année arrive, la question que tu dois te poser, c'est: Seigneur, est-ce que cette nouvelle année annonce aussi une nouvelle saison pour ma vie? Parce que tu peux passer le 31 décembre et toujours être dans la même saison. Il y en a qui le 31 décembre passeront à une autre saison dans leur vie, d'autres resteront encore dans la même saison. Parce que n'oublions pas, parce que nous avons tendance à oublier, nous les enfants de Dieu, parce que nous sommes tellement omnibulés par ce qui se passe à l'extérieur, par nos vies, nos problèmes, nos soucis, nous avons tendance à oublier que nous sommes dans le royaume. Est-ce qu'on peut dire avec moi le royaume? Le royaume de Dieu. Nous l'avons enseigné ici au mois d'août et septembre et nous allons revenir sur cet enseignement au mois de janvier avec les cours du samedi matin. Mais il faut toujours être conscient que nous sommes dans le royaume. Je vous assure, quand je cherche Dieu, quand je prie le Seigneur, quand je médite la parole et quand je pose des questions au Seigneur, Dieu parfois te parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des pensées, par des idées, par des paroles, par des versets bibliques, par des messages, etc. Mais ce qui revient le plus souvent en ce moment, c'est: Fils, n'oublie pas que tu es dans le royaume. Donc tu ne fonctionnes pas comme les gens de ce monde. Tu es dans le royaume. 1. 2. N'oublie pas que tout est spirituel. Parce que souvent, on a tendance à oublier que tout est spirituel. On est tellement attaché à ce qui se passe autour de nous qu'on oublie que tout ce qui se passe autour de nous n'est que la conséquence de quelque chose qui se passe dans le spirituel. Un enfant de Dieu, un chrétien, est quelqu'un qui doit être plus conscient du spirituel que de ce que ses yeux voient, que du naturel. On est beaucoup plus attaché au naturel qu'au surnaturel. Ce que nous appelons surnaturel ou encore spirituel, c'est le naturel de Dieu. C'est pour ça qu'un miracle n'étonne pas Dieu, parce que c'est normal pour Dieu. Par exemple, cette semaine, le Seigneur me disait que dans le monde spirituel, des mots tels que incurable ou bien impossible n'existent pas. Est-ce qu'on me suit? Des mots tels que incurable ou impossible n'existent pas. Lorsque les médecins disent que cette maladie est incurable et impossible à guérir, ça ne veut pas dire que dans le spirituel, c'est impossible. Ça veut simplement dire que dans le naturel, des hommes, dans leur raisonnement, leur compréhension, ils n'ont pas encore réussi à trouver le remède pour guérir cette maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la guérir. Dans le monde naturel, on guérit les maladies par des opérations, ou en prenant des médicaments, ou en suivant des traitements. Dans le surnaturel, dans le monde spirituel, tout se fait par la foi. Est-ce qu'on me suit? Tout se fait par la foi. La foi est une loi très importante. Mais la loi au-dessus de toutes les lois que l'apôtre Jacques appelle dans le livre de Jacques, la loi royale, c'est la loi de l'amour. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce verset? La loi royale, la loi de l'amour, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Et avec l'amour, la foi, la prière, Toutes ces choses-là, on peut arriver à amener le surnaturel dans le naturel. Est-ce qu'on me suit? Voilà. Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous a parlé avec mon épouse et nous a fait comprendre que une des lois que nous devons sérieusement activer, parce que nous sommes dans une saison où le ministère est en train de partir. Mais c'est pas encore ça. Nous devons prier. Le Seigneur nous a dit, vous devez prier. Parce que spirituellement, contrairement à ce que beaucoup croient, spirituellement, il y a des choses qui se passent ici. Et ça, le problème, c'est que l'Église, nous, les enfants de Dieu, on n'en est pas suffisamment conscients. On est tellement immature spirituellement, on est tellement faible, on est tellement naturel qu'on est ignorant. On est ignorant de ce qui se passe autour de nous. On est ignorant. Quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les élections, etc., tout est spirituel. Il y a des choses qui se passent. Mais il faut que nous, les intercesseurs de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, on soit toujours dans la prière. Et cette église a été positionnée, suscitée ici pour des raisons bien précises. Parce que tout simplement, même si Dieu ne nous l'a pas encore révélé, il y a des choses qui sont en train de se préparer dans cet endroit, dans cette commune. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens importants de ce pays sont en train de s'installer ici. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites ici. Dieu aussi est en train de nous parler par rapport à ça. Et c'est pour cela que nous, l'Église, nous devons nous préparer. Et c'est pour cela que nous devons nous lever. Maintenant, tu me diras, moi aussi j'ai ma propre vie, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes projets, j'ai mes choses aussi, j'ai mes problèmes aussi à régler. Parfois on est fatigué, parfois on est assoupi, c'est pas toujours évident, etc. Mais laisse-moi te dire une chose, je l'ai déjà dit et je le rappelle à nouveau, c'est que si tu veux que Dieu s'occupe sérieusement de tes problèmes, occupe-toi de ses problèmes à lui. Occupe-toi des affaires de Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage à vraiment nous lever. Parce que nous sommes en train de... La vision est grande, il y a beaucoup de choses à faire, la vision est grande et je nous encourage vraiment à nous lever. Pas juste à nous cantonner à venir juste le dimanche, mais vraiment à porter l'œuvre. Il y a des choses à faire. Il faut déjà porter l'œuvre dans la prière déjà, mais aussi au niveau de tout ce qu'on prévoit de faire, les activités, parler autour de nous, amener les gens à l'église, tirer les gens, parler sur Facebook, c'est-à-dire faire en sorte que les gens entendent l'évangile au travers de toi et qu'ils viennent ici. Il faut qu'ils viennent ici. C'est pas juste remplir l'église pour faire bien. C'est pas juste ça. C'est que nous sommes dans des temps, quand vous regardez ce qui se passe à Libreville, où spirituellement les gens ont besoin de connaître Dieu. Les gens ont besoin de connaître Dieu. Les gens ont trop de problèmes. Il y a trop de problèmes à Libreville. Vous n'avez pas remarqué? Il y a trop de problèmes au Gabon. Pourquoi? Parce que tout est spirituel. Et l'Église doit se lever. Spirituellement, il y a une porte qui doit s'ouvrir. Spirituellement, il y a des choses qui ont été scellées dans des alliances. Et nous, l'Église, nous devons nous lever comme un seul homme pour briser ces alliances-là. Et ça commence par la prière. C'est pour cela que nos prières ne s'arrêtent pas juste à prier 15 minutes quand on chante là. La prière, c'est tout le temps, à la semaine, à la maison, mais aussi le vendredi quand on se réunit, on prie. Il y a une différence entre quand tu pries seul dans ta chambre ou dans ton salon et une différence quand on prie ensemble. Il ne faut pas suivre, hein, ce n'est pas toujours des prières de délivrance ou de proclamation, je brille, je casse, je fais. Non, ce n'est pas ça. Parfois, rien que dans l'adoration. Parce que l'adoration que nous faisons là, le Seigneur nous a fait comprendre que quand vous adorez, il y a une atmosphère qui s'installe autour de vous. Et ça va jusque dans l'air. Et spirituellement, il y a des gens qui sont au courant qu'on est là. Ne sois pas trop ignorant. Il faut ouvrir les yeux. Il y a des gens qui savent qu'on est là. Et il y a des gens, je vous assure, qui nous observent, qui attendent de voir comment cette église va évoluer. On vous a dit que c'est toutes les églises qui sont comme ça. Ce n'est pas toutes les églises. Parce que tout simplement, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire. Donc nous, il faut qu'on soit conscient, qu'on discerne et qu'on se prépare. Et qu'on se prépare parce que spirituellement, il y a des liens à briser, il y a des choses à arracher, il y a des choses à prendre. Et quand le déclic va se faire, Parce qu'il faut prier, 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 prier jusqu'à ce que le déclic se fasse. Quand le déclic va se faire, vous allez voir. Vous allez voir, je ne sais pas comment ça se passe, mais vous allez juste voir. Et là, vous allez dire, waouh, la main de Dieu est sur cette église. Mais ce n'est pas parce que Dieu a des projets qu'il va absolument le faire. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un se lève. Regardez dans la Bible, à chaque fois que les ténèbres venaient sur le peuple d'Israël, chaque fois, Dieu suscitait un homme ou une femme pour venir faire la différence. Quand Israël est tombé dans l'apostasie, etc., Dieu a suscité le prophète Élie. Du jour au lendemain, on voit juste un gars qui s'appelle Élie qui apparaît dans la Bible. On ne sait pas d'où il vient. Élie le Tishbite. Il arrive, il s'habille bizarrement. Il arrive, il vient, il voit le roi Akab et puis il dit au roi Akab, allez, Dieu dit cela sur toi. Je déclare que pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie dans ce pays. Sécheresse totale. Voilà. Et des hommes comme ça, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Des hommes qui se lèvent et qui sont conscients du surnaturel, qui sont conscients des choses spirituelles qui se passent dans le pays et qui se positionnent et qui parlent. Quand on parlait des crimes rituels dans le pays, quand il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, comme les crimes rituels, etc., on se retrouve et on prie. Parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a des dominations qui sont en train de faire des choses dans le pays qui ne sont pas bien. Et nous, on doit se positionner dans la prière. Mais si et on n'a pas besoin d'être 100. Il ne faut pas croire que parce qu'on est 100 que c'est mieux. On peut être juste 5, 6, mais on prie sérieusement. Ah oui. Parce que c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais vous raconter des histoires vraiment extraordinaires de gens qui ont fait des choses, qui se sont positionnés à la prière et qui ont vu des choses extraordinaires avec par la main de Dieu. Et moi, je voulais vraiment nous encourager à nous réveiller. À nous réveiller et à ne pas seulement penser à nous. Parce qu'on pense trop à nous. On pense trop à nos problèmes. On pense trop à nos maisons, à nos foyers, à nos enfants, à nous. Non, on pense trop à nous. Il faut commencer à dire, Seigneur, ton église. Parce que Jésus-Christ, regardez l'accent que Jésus-Christ met sur l'église. Parce que l'église, c'est le mystère caché de tout temps que Christ a révélé dans la fin des temps. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans le Nouveau Testament, l'église. Parce que l'église a un rôle extrêmement important dans la nation. Il y a le pouvoir politique et il y a le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir religieux. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas les politiques qui tiennent ça, c'est l'église. Mais si l'église dort, les politiques font ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ne connaissent pas Dieu. Il y a tout un tas de choses qui arrivent. Mais si l'église ne se lève pas, et Dieu n'a pas besoin de travailler avec toutes les églises, hein, il suffit juste que Dieu trouve un reste. Quelques personnes qui se positionnent, qui se lèvent pour travailler, je vous assure, il fait toute la différence. Et moi, spirituellement, c'est ce que je ressens. Et depuis plusieurs jours, on est dans la prière, quoi. On est vraiment dans la prière depuis plusieurs jours, dans le jeûne, dans la prière. Je pense, je réfléchis. Même quand je vais au travail, je suis tout le temps en train de réfléchir. Et je dis, Seigneur, là, il faut que la porte s'ouvre. Il faut que la porte s'ouvre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Depuis maintenant 3 semaines, nous avons commencé un enseignement extrêmement important, justement par rapport à tout ce que je viens de dire. Dieu nous a dit, vous devez vous positionner dans la prière et dans l'adoration. Et nous sommes dans un enseignement que nous avons intitulé « L'adoration, le secret des amis intimes de Dieu ». L'adoration, le secret des amis intimes de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé du cœur de l'adoration. Nous avons dit que le cœur de l'adoration, c'est le cœur de l'obéissance. Nous avons encore dit que le cœur de l'adoration, c'est le cœur de la soumission. Nous avons dit que le cœur, pourquoi Dieu dit « fais attention à ton cœur » Proverbe 4, 23. Pourquoi il dit « fais attention à ton cœur » Parce que tout simplement, ton cœur, nous l'avons dit, c'est le centre de contrôle de ta vie. Si tu ouvres ton cœur à n'importe qui, tu risques d'avoir des problèmes. Tout part du cœur. Jésus-Christ lui-même l'a dit, que c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, les meurtres, les mensonges. Tout vient du cœur. Quelqu'un peut être en Christ, fidèle, sanctifié, consacré, et du jour au lendemain, il devient la pire des personnes. Et vous dites, mais comment il a pu faire ça? Le cœur. Parce que le cœur, soit le cœur s'est endurci, soit le cœur a été corrompu. Tout vient du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand vous voyez quelqu'un qui au début est passionné, et après tout d'un coup on dirait qu'il est tombé totalement dans l'assoupissement, le cœur. C'est pour cela que la parabole au-dessus de toutes les paraboles, c'est la parabole du semeur, où Jésus-Christ dit, le semeur vint et jeta une semence là, et les oiseaux qui étaient au bord de la route vinrent et mangèrent la semence, etc. Et en fait, il dit, la première personne, c'est une personne qui entend la parole. Elle entend la parole parce que cette personne est immature. Et tout le monde, chacun d'entre nous, nous nous trouvons dans une de ces quatre catégories que Jésus-Christ donne. La première personne est celle qui reçoit la parole et avant de l'avoir comprise, le diable vient et l'enlève parce qu'elle n'est pas mature spirituellement. La parole du royaume. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils entendent la parole tous les jours à l'église, mais ils ne portent pas de fruits. Ils ne comprennent rien. Ils retournent à la maison et leur vie ne change, c'est toujours la même chose. On dirait même pas qu'ils viennent à l'église. On dirait même pas qu'ils ont entendu des paroles profondes qui les poussaient à changer de vie. Non, ils retournent, ils retombent dans les mêmes fautes, les mêmes péchés, les mêmes habitudes, les mêmes problèmes. Ensuite, il y a celui qui la parole arrive dans son cœur, il la reçoit avec joie. Il est content, il dit « Alléluia, ça m'a fait du bien ». Mais Jésus-Christ dit que parce qu'il n'a pas de fondement, parce qu'il n'est pas affermi dans la parole, dans sa vie, la parole ne porte pas de fruits. Il n'a pas de racine. La parole commence à germer, elle commence à germer, mais parce qu'il n'y a pas de racine, parce qu'il n'y a pas de fondement. Il retourne dans les mêmes habitudes. Le troisième, la parole vient dans son cœur. Il la reçoit dans son cœur. Il l'entend, il est content. Mais il dit à cause des soucis et des problèmes de la vie. Ces soucis-là viennent étouffer la parole dans sa vie. Et il y a beaucoup de gens aussi comme ça. Ils viennent à l'église, ils entendent la parole, ils lisent la Bible, mais ils ont trop de problèmes. Quand tu parles avec eux, c'est comme si on dirait c'est eux qui ont le plus de problèmes. Et ils ne portent pas de fruits. Leur vie chrétienne est médiocre. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne la méditent pas. Ils ne payent pas leurs dîmes. Leurs finances sont médiocres. Ils galèrent. Et le quatrième, c'est celui qui reçoit la parole. Elle tombe dans une terre fertile et il porte beaucoup de fruits. Donc, c'est important de se dire, Seigneur, dans quelle catégorie je me trouve? Ma prière, c'est que nous soyons tous dans la dernière catégorie, qu'on porte beaucoup de fruits. Et nous avons parlé du cœur de l'adoration la semaine dernière, et cette semaine, nous allons continuer dans la même lancée, sauf qu'aujourd'hui, nous allons voir comment développer une amitié profonde et intime avec le Saint-Esprit. Comment développer une amitié profonde et intime avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Psaume 25, verset 14 nous dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié. Dieu ne donne pas son amitié à tout le monde. Dieu n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Et il dit encore dans Jérémie 27, verset 9, que je me révèle à celui qui me cherche de tout son cœur. Ça veut dire que Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que Dieu s'est révélé à toi totalement. Tu as reçu la parole de la vérité et tu es né de nouveau. Mais tu ne connais pas encore Dieu comme il faut le connaître. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans la vie du croyant, dans notre vie à nous. Le Père n'a jamais quitté son trône. Le Fils a revêtu une enveloppe humaine qu'on a appelée Yeshua ou encore Jésus. Il est venu sur terre, il y est resté 33 ans, il est mort à la croix, il est ressuscité et il est reparti s'asseoir à la droite du Père. Et il a dit, je vous envoie le Consolateur, le Défenseur, l'Avocat, Paraclétos, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, depuis le jour où Jésus-Christ est parti, c'est lui qui prend soin de l'Église et c'est lui qui prend soin du croyant et c'est avec lui que tu dois avoir une relation tous les jours. Si ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas bonne, c'est pas bon pour toi. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Il est Dieu en nous. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas une force, ni une sensation, ou encore une émotion, ou encore un sentiment. Il est Dieu, pleinement Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est Dieu. Et d'ailleurs, même quand tu ouvres la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Verset 2. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Donc, la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans des maisons faites de ses propres mains. Et la maison que Dieu s'est construite, il l'a appelée homme, être humain. Et c'est la maison dans laquelle Dieu vint habiter depuis le début. Le jour où Adam a péché, la chose la plus grave qui est arrivée en Éden, lorsque Adam a péché, c'était le retour du Saint-Esprit au ciel. Il a perdu la présence de Dieu. Et depuis le péché, depuis la chute de Adam, le Saint-Esprit ne pouvait plus habiter dans le corps d'un être humain. Quand Jésus-Christ est revenu, il n'y avait que lui qui avait le Saint-Esprit et c'est pour cela qu'il pouvait faire tout ce qu'il faisait. Mais avant de partir, il dit que lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et si vous croyez en moi, vous pourrez faire des œuvres même bien plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en vous le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous sommes tous semblables à Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il y a un événement qui s'est passé, c'est le déchirement du voile dans le temple. Et le déchirement du voile signifiait que désormais, tous les êtres humains avaient la possibilité non seulement de se réconcilier avec leur Créateur, mais en plus de pouvoir avoir une intimité avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal avec la Bible. Parce qu'ils disent, le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut pas avoir une intimité avec moi. C'est quand même le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant. Comment le Dieu Tout-Puissant, je peux lui parler comme si je parlais à quelqu'un dans ma chambre? Eh ouais, voici le miracle du christianisme. Voici le miracle de la parole. C'est qu'en Christ, aujourd'hui, on peut avoir cette intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je vais donner quelques conseils, quelques clés, simplement pour développer notre intimité avec Dieu. Mais avant ça, on va rentrer en profondeur pour essayer de comprendre encore mieux qu'est-ce que l'intimité. Le Père, Abba, la source, le Fils, la vérité, Dieu fait chair et révéla à l'humanité, le Saint-Esprit, Dieu en nous, la vie de Dieu en nous. D'autres disent Zoé, celui que le monde ne peut pas voir, dit Jésus. Seuls les disciples de Christ le connaissent, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait naître de nouveau. Le jour où tu es venu à Christ, le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as expérimenté un événement qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est parce que le Saint-Esprit est entré dans ton cœur et t'a ramené à la vie. C'est pour cela que l'on dit que les païens spirituellement sont morts. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelle que soit sa moralité, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa race, sa couleur, si cette personne ne s'est pas réconciliée avec Jésus-Christ, cette personne spirituellement aux yeux de Dieu est morte. Et ça aussi c'est difficile à accepter par beaucoup de gens. Ils disent, tu me vois là, mais je ne suis pas mort. Dieu dit oui, charnellement, psychologiquement, tu es vivant. Tu sembles avoir la vie, mais spirituellement, c'est le plus important, tu es mort. Lorsque Dieu dit à Adam, si tu manges ce fruit, certainement, tu mourras. Adam a mangé le fruit, est-ce qu'il est mort physiquement? Il n'est pas mort. Adam avait vécu 930 ans. Mais spirituellement, il s'était passé quelque chose, il était mort. Il était déconnecté de Dieu, il était coupé de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, lorsque tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit te ramène à la vie. Il te ramène à la vie. C'est pour cela que Jésus, quand il est allé à la croix, Jésus-Christ est mort physiquement et Jésus-Christ est mort spirituellement. Ça aussi, il y en a qui ont du mal à croire. Comment Dieu peut mourir spirituellement? Jésus-Christ était mort. Jésus-Christ était mort. Mais le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. Le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. C'est le plus grand de tous les miracles. Le plus grand de tous les miracles. Dans la version Parole vivante, au livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, il est écrit ceci. Quelques-uns, c'est-à-dire toi et moi, cependant l'ont accueilli. Qui? Jésus. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Donc naître de nouveau est le plus grand de tous les miracles. Mais la nouvelle naissance n'est pas le but final. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bon, je suis né de nouveau, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est fini, ça s'arrête là. Non, il y a plus maintenant. C'est là justement que tout commence. Et c'est là que tu dois croître en stature, en grâce et en sagesse et commencer à développer une véritable intimité avec Dieu. Je t'assure que quand tu es intime avec Dieu, quand tu es un ami intime de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut même pas voir dans ta vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans ta vie. Lorsque l'on voit certaines choses se passer dans ta vie, certaines choses graves ou certains péchés arrivés dans ta vie, pose-toi des questions sur ton intimité avec Dieu. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17 que celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Je répète, 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Il devient spirituellement un avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le jour où tu t'es uni à Christ, tu es maintenant un avec Dieu. Et c'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Le jour où tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible nous dit qu'il y a une fusion qui se passe entre la divinité et ton humanité. Tu deviens une seule et même personne avec Dieu, le Saint-Esprit. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Donc, naître de nouveau, c'est être un avec Dieu. Et quand on est un avec Dieu, c'est l'objet d'une méditation profonde que l'on doit avoir tous les jours. Seigneur, si je suis un avec toi, ça veut dire que tes pensées, ce sont mes pensées, tes émotions, ce sont mes émotions, tes sentiments, ce sont mes sentiments. Quelqu'un me dira, mais non, mais comment ça se fait alors que j'ai des sentiments aussi mauvais, des émotions aussi négatives? Comment ça se fait que j'ai des comportements aussi négatifs? Comment, si je suis un avec Dieu, comment je peux avoir des comportements comme ça? Parce que tout simplement, tu n'as pas laissé mourir ta chair et ton âme. Ton âme est trop présente. Ta chair est trop présente. Ta chair est trop présente. Tu n'es pas mort à toi-même. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit prendre toute la place. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus est le premier-né de beaucoup de frères. Jésus n'est pas seul. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, son unique. Oui, Jésus-Christ était unique avant, mais Jésus-Christ n'est plus unique. Désormais, Jésus-Christ est le premier-né de beaucoup de frères. Nous sommes tous semblables à lui. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, un avec le Saint-Esprit, et nous sommes à la fois hommes et à la fois divins. Quelqu'un dira, oh, mais comment tu peux dire que nous sommes du divin? Nous sommes du divin. Psaume 82, verset 4, il dit, n'avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Jésus-Christ répète encore lui-même dans Jean 8, j'ai dit que vous êtes, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes des dieux, avec un petit dé. Tu n'es pas Dieu, mais tu es issu de lui, tu es sorti de lui. Donc la divinité, le Saint-Esprit habite en toi. Si le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit habite en toi, alors la divinité habite en toi. Dans le premier livre de Pierre, Pierre nous dit, nous sommes participants de la nature divine, c'est-à-dire la nature divine habite en nous. C'est pour cela que la nature divine que nous sommes, un jour nous ferons un enseignement là-dessus, nous allons rentrer en profondeur sur ça, c'est pour cela que même lorsque tu pries, quand tu pries, tu n'es pas en train de faire quelque chose de religieux. Il n'y a que ceux qui sont issus de la divinité qui peuvent prier et être convaincus que spirituellement dans les airs, il y a des choses qui se passent. Tu es là et puis tu dis, je déclare au nom de Jésus-Christ que les plans de l'ennemi dans toute la commune d'Akanda sont maintenant stoppés. Quand tu déclares une parole comme ça, il n'y a qu'un divin qui peut parler comme ça. Il n'y a que quelqu'un qui spirituellement a un pouvoir entre ses mains peut parler comme ça. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas accepté ta divinité, si tu n'as pas accepté ton unicité avec Dieu, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas. Par la foi. Romains 8, 28 nous dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Tu es semblable à Jésus. C'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ faisait, tu peux le faire. Tout. Pas juste quelque chose, quelques points. Tout ce que Jésus-Christ a fait, tu peux le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est augmenter le niveau par rapport à ton intimité avec Dieu. Et Dieu t'ouvrira des portes. Dieu travaillera au travers de toi. La Bible nous dit encore, un verset qui me vient à l'esprit, dans le livre de Marc, au chapitre 16, que les apôtres, Dieu confirmait sa parole par la main des apôtres. Et Dieu travaillait avec eux tous les jours. Et la parole de Dieu était confirmée par toutes sortes de guérisons et de miracles. Si les gars n'avaient pas accepté leur divinité et leur unicité avec Dieu, ils ne pouvaient pas y accomplir ce qu'ils ont accompli. Et le livre des actes continue toujours aujourd'hui, au travers de toi et de moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et cette unicité-là avec Dieu fait de nous des créatures que la Bible appelle la nouvelle création. Paul en parle tout le temps, la nouvelle création. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris aussi ce terme, la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que voici celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Galates 2:20, Paul dit encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ton humanité, ton corps, ton enveloppe ne sert que de contenant pour Christ. En fait, c'est Christ maintenant qui doit davantage avoir de place. Et c'est ça en fait la poursuite du chrétien de tous les jours. C'est ça notre poursuite quotidienne. C'est de faire en sorte que Christ ait plus de place. Pas qu'il ait moins de place. Qu'il ait plus de place. Plus tu grandis avec le Seigneur, et plus le Saint-Esprit prend de place. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu prends moins plaisir à certaines choses. Il y a même certains films même que tu n'arrives même plus à bien regarder. Parce que tu prends plus plaisir à ça. Tellement le Saint-Esprit prend de la place en toi, tellement ton intimité maintenant avec lui est grande, qu'il y a maintenant certaines choses que tu ne peux plus, auxquelles tu ne peux plus adhérer. Certaines relations que tu ne peux plus avoir. Certains comportements que tu ne peux plus avoir. Certains livres que tu ne peux plus lire. Moi, quand je regarde la télévision, j'essaie parfois de regarder des films, des séries, etc. Mais avec le temps, je commence à avoir du mal. Parce que quand tu es en train de méditer, tu es en train de méditer sur ce que tu vas dire dimanche, et puis tu regardes certains films, tu te dis, vraiment, il faut que j'arrête de regarder ça. Parce que ça m'embrouille tout ça. Parce que le Saint-Esprit commence à te faire comprendre que si moi je ne prends pas plaisir à ça, il faut que toi aussi, tu commences à prendre moins plaisir à ça. Est-ce qu'on me suit? Donc la nouvelle création est une race d'hommes que nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Une race d'hommes, la nouvelle création, une race d'hommes qui a une particularité. Notre particularité en tant que nouvelle création, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en moi, alors je dois avoir une relation avec lui. Et si j'ai une relation avec le Saint-Esprit, je suis intime avec lui. Et il n'y a pas que lui qui doit connaître mon intimité. Moi aussi, je dois connaître son intimité. D'où le thème, comment développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Que veut dire être un avec le Saint-Esprit? Ça veut dire marcher sous la direction du Saint-Esprit. Ça veut dire penser comme le Saint-Esprit. Parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ressentir les émotions et les sentiments du Saint-Esprit. Être un avec le Saint-Esprit. Amen. Et notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu, naturellement, elle doit aller crescendo. Naturellement, elle doit augmenter. Elle ne doit pas régresser. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, passionné de Christ, et voir ta vie rétrograder. Tu ne peux pas. Si tu cherches Dieu, ta vie ne peut qu'aller crescendo. Si tu cherches Dieu, ta vie ne peut qu'aller en augmentant dans ta relation avec le Saint-Esprit. Et le secret des gens qui font des exploits avec Dieu, parce que les gens qui font des exploits avec Dieu, les gens qui bâtissent de grandes choses pour le Seigneur, des gens qui bâtissent de grandes églises, des gens qui bâtissent de grands ministères, lorsque nous les observons, nous les admirons. Mais leur secret, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils sont plus éloquents que nous. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. C'est simplement qu'ils ont une intimité avec Dieu que nous, on n'a pas. Et les gens qui sont très intimes avec Dieu, ce sont des gens que Dieu utilise de manière très particulière. Ce sont des gens qui se distinguent très vite. Parce que Dieu les aime. Dieu les aime. La Bible dit dans la Bible des psaumes, « Ne touchez pas à mes prophètes. » C'est Dieu qui dit ça, je ne sais plus dans quel psaume. Il dit, ne touchez pas à mes prophètes. Il dit aussi dans le livre de Zacharie, tu es la prunelle de mes yeux. Ce sont des paroles fortes hein, que Dieu a déclarées à notre sujet. Donc, les gens qui sont intimes avec Dieu, les gens qui ont su développer une amitié intime avec Dieu, les gens que Dieu appelle mon ami, ce sont des gens qui sont exceptionnels aux yeux de Dieu. Et ce qui est fort, c'est que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'était pas appelé comme ça. Il n'y a que quelques personnes qui ont eu le privilège d'être appelés amis intimes de Dieu. Des gens comme Abraham, des gens comme Enoch, qui étaient tellement intimes avec Dieu que la Bible dit que Dieu l'enleva. Abraham, l'ami de Dieu. David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, Jésus-Christ nous dit que je ne vous appelle plus serviteurs. Je ne vous appelle même pas mes frères. Il dit, je vous appelle mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, il sait tout ce que son ami fait. Est-ce qu'on me suit? Donc, ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec nous, qui sommes en Christ aujourd'hui, c'est que Dieu nous appelle mes amis. Et c'est là, c'est ça qui est fort. C'est qu'aujourd'hui, Dieu veut être notre ami, ton ami. Amen. Jérémie 9, verset 22 nous dit ceci. J'aime bien ce passage. Et là, on commence vraiment à rentrer. Jérémie 9, verset 22. Il dit, voici ce que le Seigneur déclare. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage. Que l'homme fort ne se vante pas d'être fort. Que l'homme riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, c'est le seul passage dans toute la Bible où Dieu dit se vanter, c'est quelque chose de positif. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de telles personnes qui me plaisent, déclare le Seigneur. Qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Est-ce qu'on peut dire avec moi connaître? Qu'il se vante de me connaître. Le mot connaître ici, est un mot hébreu que l'on prononce yada. Yada. Y-A-D. Yada. Et le mot yada en hébreu veut dire connaître quelqu'un intimement. Connaître l'intimité de quelqu'un. Et quand on va encore plus loin, on se rend compte que le mot yada, le mot connaître là, c'est le même mot qui a été utilisé en Genèse 4, verset 1, lorsqu'il est écrit que Adam connut sa femme. Version semeur dit, Adam coucha avec sa femme. Donc il devint intime. Ils eurent une relation sexuelle. Et c'est le même mot que Dieu utilise ici en disant qu'il se vante d'être capable de me connaître, qu'il se vante d'être capable d'avoir une relation intime avec moi. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, Dieu nous dit que... Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Dieu est en train de nous dire que celui qui le recherche intimement, c'est celui qui a une intimité avec lui, une intimité telle que l'intimité qu'un homme a avec une femme, qu'un mari a avec son épouse. C'est de cette intimité-là que Dieu parle. Et c'est de cette intimité-là que Dieu nous... C'est cette intimité-là que Dieu nous décrit dans le livre des Cantiques des Cantiques. Vous connaissez le livre des Cantiques des Cantiques, non? L'histoire entre Salomon et la reine de Bathsheba. C'est un livre même en général qu'on lit très peu, pour la plupart d'entre nous. On lit très peu, mais c'est un livre qui parle beaucoup d'amour, de l'amour passionné entre un homme et une femme. Yada. Yada. Donc, Dieu n'utilise pas le mot yada par hasard. Si Dieu utilise le mot yada, c'est qu'il nous invite à avoir une relation intime et profonde avec lui. Dieu nous dit que le connaître intimement est semblable à cette intimité-là que nous avons avec nos épouses, qu'il y a entre un homme et une femme. C'est une intimité qu'on ne peut pas, expliquer avec les mots. L'intimité qu'on a avec une femme est une intimité qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. C'est une intimité qui est si profonde qu'il n'y a que l'homme et la femme en question qui peuvent la comprendre. Les gens autour ne peuvent pas comprendre cette intimité-là. Et c'est pour cela que la Bible nous dit aussi qu'il est interdit d'avoir une relation sexuelle avec un homme ou avec une femme avant le mariage. Parce que cette intimité-là n'est réservée qu'aux maris et femmes. C'est pour cela que l'adoration, est décrite dans la Bible comme une intimité entre un homme et une femme. La relation entre un mari et son épouse ne fait que refléter l'adoration que Christ a avec son Église, son épouse. Est-ce qu'on me suit? Ouais. Ça ne fait que refléter la relation que nous devons avoir avec notre époux, Christ. C'est ça le mariage. En 2014, nous allons avoir une série d'enseignements sur le mariage. Ça va être profond. Et je prie que Dieu vraiment nous emmène dans cette révélation-là. Et quand on va comprendre ça, je vous assure, on ne va plus blaguer avec le mariage. On ne va plus s'amuser avec le mariage et les relations sexuelles. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort au regard de la Bible. Et l'intimité qu'un homme a avec une femme n'est que le reflet de l'adoration que nous devons avoir avec Dieu. Et Dieu nous dit, celui qui veut se vanter, qu'il se vante d'avoir une relation intime avec moi. Est-ce qu'on me suit? Amen. Mais qui peut connaître l'intimité de Dieu si ce n'est celui à qui Dieu veut le révéler? Personne ne peut connaître ton intimité si tu ne le lui révèles toi-même. Personne. Il n'y a que celui qui est intime avec toi qui peut voir ton intimité. Il n'y a que celui qui est intime avec toi qui peut voir ta nudité. Celui qui n'est pas intime avec toi ne peut pas voir ta nudité. C'est pour cela que le viol est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que tu forces l'intimité de quelqu'un. Et c'est l'acte le plus grave qu'on puisse avoir. C'est pour ça que le viol est puni de façon très grave par la justice. Parce que tu pénètres dans l'intimité d'une personne sans son autorisation. Et de même que tu ne révèles pas ton intimité à n'importe qui, Dieu aussi ne révèle pas son intimité à n'importe qui. Il n'y a que ceux qui cultivent une intimité profonde avec Dieu qui peuvent avoir accès à sa nudité. Oui, Dieu aussi a une nudité. Hein. Dieu aussi a une nudité. Rappelez-vous un passage dans la Bible. Je me rappelle, je crois que c'est Apocalypse chapitre 19, où il est écrit, on le vit venir sur un cheval blanc, le Christ. Et regardez le passage d'après, il est écrit, il était écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Où? Sur sa cuisse. Mais qui peut voir la cuisse? Qui peut voir la cuisse? La cuisse est recouverte par les vêtements. Mais qui arrive à voir ce qui est écrit sur la cuisse? C'est l'épouse. C'est celle qui est intime. Donc l'Église que nous sommes, nous avons une intimité avec Dieu qui nous donne accès à sa nudité. Mais cette intimité-là ne peut y entrer que ceux qui ont une relation très intime avec lui. Et qui peut nous révéler l'intimité de Dieu? Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire avec moi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle le cœur de Dieu. Seul le Saint-Esprit nous donne accès aux profondeurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit nous donne accès aux secrets cachés dans le cœur de Dieu. Seul le Saint-Esprit nous donne accès à l'intimité de Dieu. Si on n'a pas de relation intime avec le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu. Le Saint-Esprit et le Père sont un. C'est une seule et même personne. Et notre raisonnement humain et notre entendement naturel ne peuvent pas comprendre et percer ce mystère. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il y a des gens qui essaient d'expliquer la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas comprendre. On peut juste l'accepter par la foi. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous révèle l'intimité. Connaître l'intimité de quelqu'un, c'est non seulement connaître sa nudité, mais c'est aussi connaître même sa façon de penser. Quand tu comprends la façon de penser de quelqu'un, tu peux dire que tu le connais. Pourquoi? Parce que tu arrives à anticiper son comportement. Tu arrives à anticiper ses actions. Quand tu comprends la façon de penser de quelqu'un, tu arrives à le contrôler même. Tu arrives à le contrôler. Qui peut nous révéler l'intimité de Dieu? Qui peut nous révéler les pensées de Dieu? Qui peut nous révéler la nudité de Dieu? Parce que même connaître les pensées de quelqu'un, c'est comme connaître sa nudité. Tu le contrôles. Et qui peut nous révéler les pensées de Dieu? Le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler les profondeurs cachées de Dieu. Et si on n'a pas de relation intime avec lui, on ne peut pas les percer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 nous dit ceci. Un verset extrêmement important. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes, en effet, connaît les pensées de l'homme, ou encore connaît les choses de l'homme, dit une autre version. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, ou encore les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ou encore les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est un verset extrêmement important concernant le Saint-Esprit. Ce verset nous dit simplement que celui qui connaît parfaitement les pensées de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand tu élèves la voix et que tu dis, « Oh Seigneur, fais-moi connaître tes pensées. Oh Seigneur, révèle-moi tes voies. » C'est le Saint-Esprit qu'il faut aller chercher. Parce que c'est lui qui a accès. C'est lui qui est en nous, qui habite en nous et qui peut faire remonter dans notre cœur les pensées de Dieu. Il est Dieu. Et ses pensées, son intimité, sa nudité, il ne la révèle pas à n'importe qui. Amen. Le mot connaître ici, tout à l'heure on a parlé de yada pour l'Ancien Testament. Le mot connaître ici est un mot équivalent en araméen ou encore en grec. C'est un mot que l'on prononce oïda, O-I-D-A, oïda, qui veut aussi dire connaître quelqu'un intimement. Connaître quelqu'un intimement. Et le mot chose ici, qui peut connaître les choses de l'homme, c'est le mot pensée. Donc, connaître les pensées de Dieu, c'est connaître son intimité. Quand Dieu te révèle son intimité, il te révèle ses pensées. C'est pour cela que quelqu'un comme Abraham était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui révélait en avance ce qu'il allait faire. Et c'était des gens très privilégiés. Quelqu'un comme Moïse, et quelqu'un qui passait ses journées dans la tente de la rencontre, il passait tellement de temps à parler avec Dieu que quand il sortait, son visage rayonnait. Il était obligé de mettre un voile sur le visage. Il avait accès aux pensées de Dieu. Il avait accès à l'intimité de Dieu. Amen. Oh oui. Donc, être intime avec Dieu, c'est connaître ses pensées. Avoir accès à son cœur. Avoir accès à ses pensées. Et le cœur de l'adoration, les adorateurs que Dieu demande et que Dieu recherche, ceux que nous sommes en train d'étudier depuis 3 semaines, ce sont ceux qui ont accès à son intimité et qui connaissent ses pensées. Et ces gens-là, ce sont des gens extrêmement dangereux. Il y a des gens, aujourd'hui, quand vous vous baladez dans l'église, ils recherchent le sensationnel. Ils recherchent le prophétique. Ils recherchent des messages stimulants. La nuit de percer. Tu vas percer aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense à ton sujet. Le plus important, c'est de connaître les pensées de Dieu à ton sujet. Le plus important, c'est ton intimité avec Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui se tiennent sur l'estrade, qui prêchent des beaux messages, mais ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Ce n'est même pas des gens qui prient. Se tenir devant les gens, écrire quelque chose et puis venir parler devant les gens, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile. Quelqu'un d'éloquent qui sait bien parler, il se tient devant les gens. La Bible dit que les loups sont rentrés dans l'église. Mais les loups, ils savent parler, hein. Mais ceux qui se basent sur ça pour dire que voici quelqu'un qui est intime avec Dieu, ils se trompent. Ils se fourvoient. Alors que quelqu'un qui est intime avec Dieu, même s'il n'est pas éloquent, Dieu déverse. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu déverse. Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui mettent la priorité sur l'intimité. Ils ne mettent pas la priorité sur le m'as-tu vu. Ce sont des gens très simples. Ce sont des gens, leur priorité, quand ils viennent quelque part et qu'il y a un événement, ils sentent. Ils essaient de sentir si Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, ils disent, alors je n'ai rien à faire ici. Ça ne sert à rien que je reste là. Quand ils veulent prendre une décision, ils vont d'abord chercher Dieu dans l'intimité pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ce sujet? C'est là où David était extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais en train de lire l'histoire de David dans le livre de Samuel. Et regardez l'histoire de David. David était extraordinaire. Quand il est devenu roi, David, chaque fois qu'il devait partir en guerre, la Bible dit, David alla consulter l'Éternel. Toujours, toutes les batailles. Et l'Éternel lui répondit, va, je te donne le pays. Ne va pas, mais contourne la montagne. Et lorsque tu entendras quelqu'un dans l'herbe, sache que c'est moi, je suis avec toi. Non, ne monte pas. Lorsque David rentra de bataille avec tous les hommes et arrivèrent au village et virent qu'on avait enlevé leurs femmes et leurs enfants, la Bible dit que tous les hommes parlaient de lapider David. On voulait le tuer. Qu'est-ce que David fit? Il ne paniqua pas, il alla dans sa tente et il pria. La Bible dit que David pria et consulta le Seigneur pour demander que devait-il faire. Et le Seigneur lui dit, va, je te donne le pays et tu ramèneras tes femmes et tes enfants. L'intimité. Celui qui est intime avec Dieu, l'adorateur, il cherche tout le temps à connaître les tristesses et les joies de Dieu, les préoccupations de Dieu. Il est tout le temps en train de se demander qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ceci ou de cela. Tout le temps. Le plus grand plaisir des vrais adorateurs est de se délecter de l'intimité de Dieu. Leur plaisir, ce qui fait leur joie, leur allégresse, c'est l'intimité de Dieu. Le message que je vous donne là, c'est le genre de message aujourd'hui que les gens n'aiment pas écouter. Les gens n'aiment pas ce type de message. Les gens aiment le sensationnel. Les gens aiment ce qui fait le bruit. Les gens aiment celui qui crie. Si je criais là aujourd'hui, là, on allait dire que j'avais plus d'onction. Beaucoup vont parler comme ça. Parce que je crie fort. Parce que je gesticule dans tous les sens. Je déménage. Là, on va dire celui-là est intime avec nous. Non! Et les gens n'aiment pas ce type de message. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas intimes avec Dieu. Il y a des gens, vous les voyez, une fois, il y avait quelqu'un dans une église que je connaissais. Il était venu, il se vantait qu'il venait de telle église. Il se vantait qu'il avait marché avec tel serviteur de Dieu. Il se vantait qu'il connaissait tel homme et telle personne, etc. Il se vantait qu'il connaissait telle et telle personne et il s'habitait costume trois pièces toujours. On le mettait devant. C'était quelqu'un d'important. Mais on ne l'avait jamais entendu prier. On ne l'avait jamais entendu prêcher. Et un jour, le pasteur de l'église en question dit, « Ok, nous sommes en réunion de prière. Mais frère, viens prier. Viens prier. » En fait, tout de suite, ce qui me venait à l'esprit, c'était « On va voir si tu es intime avec Dieu. On va voir si tu es vraiment intime avec Dieu, petit. » Quand le gars vient, je vous assure, il n'arrive même pas à aligner une seule phrase. « Oh, papa, je te bénis, papa. Oh, papa. » Quand je regarde la personne, je fais « Voilà quelqu'un qui ne prie pas. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec Dieu. » Voilà quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. On te demande juste de prier 5 minutes, mais tu n'arrives même pas. Il était dans les apparences, dans le sensationnel. Mais en ce qui concerne l'intimité, zéro. Zéro. Mais un autre jour, j'ai passé pendant des années, j'ai marché dans le ministère de la louange avec une dame. J'ai marché dans le ministère de la louange avec une dame. Elle n'a jamais prêché devant l'église. Elle ne conduisait pas les moments de prière le vendredi soir. Mais quand elle priait, cette femme-là, elle prie quand elle ferme les yeux, elle ouvre sa bouche, passionnée. Quand elle prie avec passion. C'est-à-dire, On n'a même pas besoin d'attendre 30 secondes. Nous tous, on est déjà à genoux, déjà, on est déjà tous ici en train de... Tellement quand elle prie, elle déverse, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui a l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Et ça se ressent tout de suite parce que les vrais adorateurs que nous sommes, nous aussi, tout de suite, on se connecte, tout de suite. Quand vous allez à un endroit où des gens prient, vous savez, si vous êtes un adorateur de l'Éternel, vous savez si ce sont des adorateurs ou pas. Vous arrivez à vous connecter à eux tout de suite. Mais si ce sont des gens qui ne prient pas, qui n'ont pas l'intimité avec Dieu, qui n'ont pas l'habitude de cultiver la présence de Dieu, je vous assure, vous partez, vous ne restez pas. Parce que vous sentez qu'il n'y a rien. Quelqu'un va dire, oui, mais là où deux ou trois sont assemblés ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Oui, Dieu est là, mais il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Amen. Donc, les relations que nous avons avec le Seigneur sont les relations, peuvent être les relations de créature à créateur, de maître à serviteur, de mentor à disciple. Mais Dieu veut aussi qu'on ait une relation d'ami à ami. La relation qu'un ami a avec un ami intime, la relation que tu as avec ton ami intime n'a rien à voir avec la relation que tu as avec ton frère. C'est même une relation plus intime. Nous ne nous confions pas en nos frères et sœurs. Notre frère et notre sœur ne sont pas nos confidents. On ne leur dit pas nos secrets. Mais l'ami intime est celui à qui on dit tout. C'est pour cela que Dieu ne t'appelle pas frère ou serviteur. Dieu t'appelle ami. Il veut être ton ami. Dans le jardin d'Éden, Adam était l'ami de Dieu. Il n'y avait ni rituel, ni cérémonie, ni religion. Juste une simple relation d'amour entre Dieu et sa créature. Amen. Ne soyons pas distraits. Et nous aujourd'hui, nous avons été créés pour avoir une relation intime avec Dieu. Quand on lit le livre d'Éphésiens, prenez un jour le temps de lire le livre d'Éphésiens, rien que le premier chapitre. La Bible nous dit que c'est pour ça que nous avons été créés. Nous avons été créés pour avoir une relation intime avec lui. Et le but de toute la Bible a toujours été le même, rétablir cette relation d'intimité que nous avions perdue en Éden. Amen. Jacques 4, verset 8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Désormais, grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons avoir accès à cette intimité-là. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Et aujourd'hui, nous avons accès à lui par le Christ. Par le Christ. Donc, connaître Dieu intimement, pour finir, connaître Dieu intimement est la plus belle chose et la chose la plus extraordinaire qu'on pourrait expérimenter dans notre vie. Pas de faire le ministère, pas de bâtir de grandes choses pour lui, mais le connaître intimement. Et aujourd'hui, moi, ma prière, c'est qu'à la maison du bâtisseur, on soit connu, non pas pour le nombre que nous sommes, non pas pour le bruit que l'on fait, non pas pour la puissance des messages que l'on donne, mais qu'on soit connu comme un peuple intime avec Dieu, passionné par notre adoration que nous avons avec le Seigneur. Il faut que quand les gens viennent à la maison du bâtisseur, ils puissent ressentir cette passion-là pour Dieu et qu'ils puissent dire, « Ah, ici, vraiment, les gens cherchent l'intimité avec Dieu. » C'est la priorité des priorités. Quelqu'un qui n'est pas intime avec Dieu est quelqu'un avec qui il ne faut pas t'associer. Si toi, tu es quelqu'un d'intime avec Dieu, ne t'associe pas avec quelqu'un qui ne l'est pas. Il va te mettre en danger. C'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas t'accorder. C'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas travailler. Gloire à Dieu. Pour finir, comment développer notre intimité avec Dieu? Juste deux clés. La semaine prochaine, nous en verrons d'autres. Deux clés simples. Ce que je vous donne là, c'est des choses simples, mais c'est des choses extrêmement importantes que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Pour tisser des liens plus étroits avec Dieu, nous devons apprendre à lui confier nos sentiments. Honnêtement, nous devons apprendre à compter sur lui lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. Et surtout, nous devons désirer son intimité, son amitié, plus que toute autre chose. Lorsque l'on perd une amitié intime, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement mal. Quand vous avez marché avec quelqu'un pendant des années, vous avez été amis. Et puis, il y a un événement qui survient et cette personne t'en veut. Ça fait très mal, hein? Parce que pourtant, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu es marié ou quoi que ce soit. Mais c'est juste parce que c'est les amis. En fait, il y a des gens qui passent, mais les amis intimes restent toute la vie. Les amis, vous n'avez pas remarqué que les amis intimes, vous n'en avez pas beaucoup? On n'en a pas beaucoup, voire on n'en a pas. On connaît plein de gens autour de nous. Des collègues de travail, la famille. Mais ce qu'on recherche le plus souvent, ce sont les amis intimes. Des gens avec qui on peut rester là et puis on parle. On se confie. On s'aiguise, on connaît nos secrets, on se révèle nos secrets, on se révèle notre intimité, on parle de nos problèmes, on parle de nos couples, etc., etc. Ça, des gens comme ça, des amis comme ça, là, ce sont des amis qui sont très, très rares. Et les amis intimes, en général, ce sont des gens, quand on les rencontre la première fois, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous connecte, mais on est prudent. Et on se laisse d'abord le temps de se découvrir. Parce qu'on n'a pas envie d'aller trop vite. Parce qu'on va se révéler mutuellement notre nudité. Donc on prend le temps. Et puis Dieu permettra qu'on expérimente des choses fortes ensemble. Qui vont faire que on va devenir plus que des frères. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 17. Il dit que au jour du malheur, un ami intime est plus qu'un frère. Au jour du malheur. L'ami intime. Plus qu'un frère. Le jour du malheur, au lieu d'aller voir tes frères et tes soeurs, ta famille, tu préféreras aller voir un ami intime et aller pleurer auprès de lui. Première chose à faire pour développer son intimité avec Dieu. La toute première chose à faire pour développer une intimité étroite avec le Seigneur. La toute première chose, c'est je dois dialoguer régulièrement avec Dieu. Que quelqu'un dise dialoguer avec lui. Tu ne peux pas construire une relation étroite avec Dieu en allant simplement à l'église une fois par semaine ou en prenant quelques minutes chaque matin avec lui. Le culte personnel que l'on rend à Dieu est très important. Amen. Mais le dialogue avec Dieu ne doit pas s'arrêter juste à 5 minutes ou 15 minutes de prière le matin. Les amis intimes de Dieu sont des gens qui parlent avec lui tout le temps. Tout le temps. On tisse des liens d'amitié profonde avec Dieu en partageant avec lui toutes nos expériences durant la journée. Durant toute la journée, tu es en train de parler avec Dieu. Tu es là, tu penses à lui et tu parles avec lui. Soit tu es en train de prier en langue, en permanence, ou bien tu es tout en train de lui poser des questions. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui me disent, mais tu parles à qui? Parce que sans m'en rendre compte, je parle à voix haute. Et puis on dit, mais tu es en train de devenir fou. Oui, je suis fou de Dieu. Fou de Dieu, pas fou de vous, mais fou de Dieu. Je lui pose des questions. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Comment tu fais pour prier sans cesse? Explique-moi comment tu fais. Soit tu pries en langue, en permanence, soit tu es tout le temps en train de parler. Tu es en train de laver la vaisselle, tu parles au Seigneur. Tu es en train de t'habiller, tu parles au Seigneur. Tu es en train de te laver dans la douche, tu es en train de parler au Seigneur. Tu es en train de lui poser des questions. Tu n'as pas besoin d'attendre le matin à 6h du matin de te mettre debout dans ton salon. Oh Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Non. Il y a un livre qui n'est plus édité aujourd'hui qui était intitulé Les héros de la foi. C'est dans ce livre-là qu'on raconte l'histoire des gens comme Smith Wigglesworth, Dwight Moody, Charles Wesley, des gens qui ont marqué leur temps. Et c'était des gens qui faisaient des choses extraordinaires. Par exemple, Smith Wigglesworth est quelqu'un c'était quelqu'un vraiment d'unique en son temps. C'est-à-dire, c'est réel, hein? Réel. C'est-à-dire, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'était quelqu'un, il monte dans le bus, tout le monde se met à pleurer. C'était déjà fort. Il monte dans le bus, tout le monde se met à pleurer. L'événement le plus marquant de la vie de Smith Wigglesworth, quand on lit le livre des héros de la foi, on peut le trouver en PDF sur Internet, hein? C'est un épisode où il arrive dans un aéroport aux États-Unis. Quand il rentre dans l'aéroport, tout le monde dans l'aéroport, il y a beaucoup de monde, tout le monde commence à pleurer, tout le monde se met à genoux. Les gens commencent à se repentir sur place, tellement la présence de Dieu était forte. Il rentre dans un taxi, Bénin, à des histoires, à des témoignages comme ça. L'évangéliste Bénin, il monte dans un taxi, le taximan commence à pleurer. Il dit, mais monsieur, qu'y a-t-il? Pourquoi vous mettez-vous à pleurer? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ressens Et je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Et il commence à demander pardon à Dieu. Et Smith Migglesworth a écrit un jour ceci dans le livre en question. Il a écrit, quelqu'un lui a demandé, combien de temps priez-vous par jour? Il a dit, par jour, chaque matin, je prie 5 minutes, mais toute la journée, je suis en prière. Chaque matin, je prie 5 minutes, mais toute la journée, je suis en prière. Parce que toute la journée, il est en train de parler avec Dieu. Et c'était ça, sa force. On lui demande, c'est quoi ton secret? Il dit, mon secret, c'est que je suis tout le temps en train de parler avec Dieu. Je suis tout le temps connecté à Dieu. Tout le temps. Donc, prier sans cesse ne veut pas dire juste prier quelques minutes. Prier sans cesse veut dire dialoguer avec Dieu en permanence. Tu peux le faire avec l'intelligence comme tu peux le faire en priant en langue. Donc, l'adoration n'est pas un événement qui dure 5 minutes ou 15 minutes, comme on le fait là. L'adoration est une attitude permanente que nous avons avec Dieu. Tu es là, tu dis, Seigneur, je t'appartiens. Tu marches dans la rue, tu dis, oh Dieu, révèle-moi tes voies. Oh Seigneur, parle-moi. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci pour les finances. Seigneur, merci pour cette porte que tu ouvres. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Tu es là et puis tu dis, Dieu, je t'aime. Parfois, tu roules dans la voiture. Tu roules dans ta voiture et puis tout d'un coup, tu ressens le désir de t'arrêter sur le bord de la route et puis tu commences à parler avec le Saint-Esprit. Tu parles avec lui. Vous n'avez jamais ressenti ça? Parfois, vous êtes là et puis le Saint-Esprit vous dit, arrête-toi, arrête de faire ce que tu fais et puis parle avec moi un peu. Parfois, les femmes font ça. Les femmes, elles sont fortes à ça. Tu es là, toi l'homme, tu es occupé. Et puis, elle te dit, mais arrête de faire ce que tu fais, non. Viens, on reste ensemble. Mais on reste ensemble pour faire quoi? Juste, on reste ensemble, c'est tout. Mais pour faire quoi? Tu vois que je suis occupé? Non, viens, on reste ensemble. Et le Saint-Esprit est pareil. La deuxième chose que je dois faire pour développer mon intimité avec Dieu, je dois continuellement méditer sa parole. Est-ce qu'on peut dire avec moi sa parole? On développe une intimité avec Dieu en méditant sa parole toute la journée. La méditation, que veut dire méditer? La méditation veut dire réfléchir sans cesse à quelque chose. Penser sans cesse à quelque chose. Poser des questions. C'est ça que ça veut dire méditer. Et développer une intimité avec Dieu passe par la méditation de la parole. Regardez tous les grands serviteurs de Dieu qui ont marqué leur temps ou qui marquent encore leur temps. Quand vous leur demandez comment tu fais pour avoir une intimité avec Dieu, ils vont toujours vous dire la parole. Le matin, je me lève très tôt et je suis dans la parole. Je suis en train de méditer la parole, en train d'étudier la parole. C'est ce que j'appelle moi le petit déjeuner des champions. Passer du temps dans la prière et ensuite je passe du temps dans la méditation de la parole. Un autre jour, je vais commencer par la parole et ensuite je vais me mettre à prier. Peu importe, avec Dieu, c'est jamais la même chose. Mais la méditation de sa parole est une clé. Le jour où je ne médite pas la parole de Dieu, il faut toujours que je fasse quelque chose dans la journée qui me connecte à la parole. Peut-être c'est écouter un message, peut-être c'est lire un livre sur la parole, peut-être c'est prendre un proverbe, ou bien je suis au boulot, sur Internet, je m'arrête et puis je commence à prendre la Bible et je la lis. Je médite la parole. Bon, on va pas trop méditer la Bible au boulot. Le boulot, c'est le boulot. La méditation de la parole. Méditer veut dire concentrer ses pensées sur quelque chose. Donc, la concentration, concentrer ses pensées sur quelque chose. Je vais te donner une image de ce qu'est la méditation. Pour que tu comprennes bien c'est quoi la méditation. La manière dont tu te concentres sur tes problèmes, c'est de la méditation. Sauf que tu te concentres sur la mauvaise chose. Donc, si on sait se concentrer sur nos problèmes, ce qui nous donne des soucis, de même, concentrons-nous sur la parole et ça nous donnera plus de paix et de joie avec Dieu. La prière, c'est lorsque nous posons des questions à Dieu. C'est lorsque nous parlons à Dieu. La méditation, nous donnons à Dieu l'occasion de nous répondre durant la journée. Amen. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. Les amis intimes, et moi je voudrais que tu élèves la voix. C'est un message qui a l'air simple en apparence, mais c'est un message extrêmement important. Je voudrais que tu élèves la voix et que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce d'être plus intime avec toi. Parce que lorsqu'on regarde la vie de beaucoup de gens, on se pose des questions sur leur intimité avec Dieu. Lorsque l'on regarde certaines attitudes que tu as faites, que tu as eus, certains comportements que tu as eus, certains actes que tu as posés. Pose-toi des questions sur ton intimité avec Dieu. Et les amis intimes sont des gens qui non seulement partagent leurs secrets avec Dieu, mais ce sont des gens qui connaissent l'intimité, la nudité de Dieu. Et Dieu ne révèle pas son intimité à n'importe qui. Dieu révèle son intimité aux gens qui lui sont proches. Je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et Dieu aussi a un cœur. Et Dieu aussi garde son cœur. Et Dieu ne révèle pas son cœur à n'importe qui. Dieu révèle son cœur aux gens qui sont dignes de confiance. À ses prophètes, il les appelle. Aux gens qui ont une intimité particulière avec lui. Et ce sont les gens, ce sont ces types de personnes, il dit dans la Bible, qui lui plaisent. Yada. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Sois béni, Père. Sois loué. Sois exalté, Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Cette parole qui nous encourage à chercher ton intimité. Cette parole qui nous encourage à chercher à te connaître. Non pas seulement à te connaître comme les gens ont l'habitude de nous enseigner, mais te connaître de manière intime et d'avoir une relation profonde avec toi, Seigneur. De te connaître intimement, yada, c'est-à-dire de te connaître comme quand un homme a une relation avec une femme, Seigneur. Cette intimité-là que l'on ne peut pas expliquer, cette intimité-là que l'on ne peut pas décrire avec des mots, mais une intimité profonde, une intimité profonde avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de croître dans cette intimité, d'être plus intime avec le Saint-Esprit, intime avec le Saint-Esprit durant la journée, intime avec le Saint-Esprit lorsque nous sommes au travail, intime avec le Saint-Esprit lorsque nous sommes, Seigneur, sur la route, lorsque nous sommes dans les transports en commun. Développer cette intimité avec toi. Oui, le matin, nous pouvons prier peut-être juste 5 minutes, mais toute la journée, nous sommes en prière. La journée, nous te posons des questions. La journée, nous dialoguons avec toi. La journée, nous méditons sur ta parole. La journée, nous prenons le temps de t'écouter. La journée, nous prenons le temps d'écouter tes instructions, de recevoir tes conseils, Père de grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons comme un seul homme et nous supplions, Seigneur. Tu nous enseignes en ce moment que l'adoration est le secret des amis intimes de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir une adoration profonde et intime avec toi et de voir nos vies être changées, de voir nos vies être transformées, Seigneur. Merci pour l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous disons oui, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons, Seigneur, à tes commandements. Nous nous soumettons, Seigneur, à tes commandements, Seigneur. Et que le cœur de l'adoration soit notre partage. Ce cœur obéissant, ce cœur soumis, ce cœur, Seigneur, reconnaissant, ce cœur qui te cherche, ce cœur passionné, ce cœur qui a besoin de toi, ce cœur qui reconnaît que sans toi, il ne peut rien faire. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre paix. Tu es le sujet de notre allégresse. Tu es notre joie. Tu es notre force. Tu es notre amour. Tu dis, premier de tous les commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Seigneur, que nos pensées soient tes pensées. Et tu dis encore dans ta parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Seigneur, fais-nous connaître tes pensées. Laisse-nous nous accorder à tes pensées et que nos vies, Seigneur, t'honorent, que nos vies te reflètent. Merci encore pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée en chacun, tu la rendras parfaite, tu l'achèveras, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la maison du bâtisseur. Je te bénis pour mon frère et ma sœur, Seigneur. Seigneur, donne à chacun, Seigneur, cette passion pour te chercher, cette passion pour courir après toi. Paul a dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de courir, Seigneur, et de poursuivre cette intimité et de pouvoir demain se vanter de te connaître intimement, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la louange. Conduis-nous encore durant ces semaines, Seigneur. Emmène-nous plus en profondeur, Seigneur, dans cet enseignement. Et que, Seigneur, la révélation de ta connaissance soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'un adorateur peut simplement acclamer le Seigneur? Nous savons dire merci. Oh, merci, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.